Chers amis de Radio Galère, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir tous les mardis, de 18h à 19h, dans l'agora de l'Université Populaire de Marseille Métropole, sur la bande FM 88.4, sur le canal 8C de la radio numérique terrestre et en diffusion Internet. L'agora vous propose des régalades, des pépites, des projets, des initiatives de la recherche, de la créativité, de la cité. Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabien Ginisti, qui a réalisé une enquête sur la face cachée du covoiturage, Blacard et son monde. Bonjour Fabien Ginisti.
Bonjour.
Le passager clandestin et l'âge de fer ont coédité votre livre Blablacar et son monde, sorti le 19 avril 2024. Vous êtes journaliste, directeur de la publication du mensuel indépendant L'âge de fer et aussi covoitureur de longue date. Après l'enquête que vous avez réalisée, êtes-vous toujours covoitureur, utilisateur de Blablacar, conducteur, passager?
Tout à fait. Je continue à utiliser Blablacar, surtout en tant que conducteur et parfois en tant que passager. C'est un service qui est pratique. Voilà, on va voir que je suis assez critique dans mon livre sur cette entreprise. Mais le covoiturage de longue distance, ouais, voilà, c'est quelque chose de pratique, d'économique. Donc, mon livre ne vise pas à m'attaquer au covoiturage de longue distance. Mon livre est plutôt critique par rapport à la firme qui possède la quasi-totalité du trafic de covoiturage de longue distance,
Ouais.
à savoir Blablacar.
Mais présentez-nous votre journal L'âge de fer.
Alors, L'âge de fer, donc c'est un mensuel papier, c'est un média qui est aussi sur Internet, qui l'âge de fer, le journal.fr, on le trouve assez facilement. On a l'habitude de le présenter comme un média anti-résignation. On va présenter des initiatives, des résistances, des gens qui y inventent, qui luttent pour un monde plus écologique et plus solidaire. Voilà, c'est un média qui est national, qui existe depuis 2005 maintenant. On est à peu près à 10 000 exemplaires papier par mois. On est en
Bien.
campagne d'abonnement, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'on fait. Et c'est un journal qui nous appartient, c'est-à-dire qu'on est, moi je suis salarié du journal et on est 7 salariés associés au capital de l'entreprise, on est en coopérative.
D'accord.
Voilà, et c'est grâce au lecteur de L'âge de fer que j'ai pu prendre le temps d'écrire et de travailler à cette enquête. J'ai réalisé cette enquête sur mon temps de travail dédié au journal d'habitude. Voilà, donc c'est vraiment lié. Le livre Blablacar et le journal L'âge de fer sont très liés, on va dire.
Et donc, pendant votre enquête, ce sont vos collègues qui ont travaillé davantage pour dégager un peu de votre temps.
Tout à fait, tout à fait. Ils ont travaillé plus, pas forcément pour gagner plus, voilà, pour que j'aie moi-même du temps pour écrire ce livre.
Ouais. En lisant votre livre, je me suis souvenu des sketchs de Jean-Yann et de Coluche, et ça m'a donné vraiment beaucoup de plaisir. C'est vrai, enfin, ce sont des sketchs qui sont un peu anciens, mais qui sont toujours très amusants. Alors, est-ce qu'on peut dire que le covoiturage a remplacé l'autostop?
Je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Je pense que l'autostop existe encore et qu'il n'est pas du tout mis en valeur. Qu'il y a eu un changement de regard sur l'autostop par rapport au regard qu'on avait dans les années 60-70. Maintenant, l'autostop est devenu dangereux. Sans forcément qu'il y ait d'études ou bref, il y a ce ressenti d'un autostop dangereux. Et le covoiturage est arrivé à ce moment-là. Le covoiturage de plateforme, hein, on va parler surtout de ça, hein, du covoiturage via une plateforme Internet. Il est arrivé à ce moment-là et a, je pense, un peu surfé sur cette vague. Attention, le covoiturage, l'autostop est dangereux. Le covoiturage de plateforme permet la même chose, mais en sécurité. Donc, l'autostop continue. Le covoiturage, on peut considérer que c'est une forme d'autostop organisée, donc qui présenterait les avantages de l'autostop, mais qui n'aurait pas ses inconvénients. On peut considérer que c'est le cas. Après, il y a quand même il y a une notion d'imprévu dans l'autostop que j'aime bien. Alors, pas forcément d'attendre au bord de la route, ça c'est un imprévu qui n'est pas agréable, mais l'imprévu dans le sens où on va rencontrer des personnes totalement qu'on n'a pas du tout choisies. Aujourd'hui, le covoiturage, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus cadré, où on a beaucoup moins, en tout cas, cette notion d'imprévu dans la rencontre. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Ouais. Le covoiturage avant BlaBlaCar, il y avait plein de plateformes. Et comment BlaBlaCar est devenu leader du covoiturage en France, mais aussi à l'international?
Alors, c'est le premier chapitre de mon livre. C'est l'histoire d'une entreprise capitaliste, comme il y en a beaucoup. C'est aussi l'histoire d'un secteur économique, le capitalisme de plateforme, l'économie de plateforme qui met en relation, les particuliers. Effectivement, quand.
Ben on peut se souvenir de la réussite du patron de Free maintenant, qui a fait sa fortune grâce au Minitel rose.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors là, on va être sur les télécommunications, sur les plateformes. Voilà, si c'est, on va être plus sur les modèles tels que Le Bon Coin, Airbnb, Uber.
Ouais.
Voilà, où naturellement, je ne sais pas vous, mais moi, quand je veux trouver un grille-pain d'occasion, je vais aller naturellement sur Le Bon Coin. Parce que je sais que c'est là où il y aura le plus d'annonces. Le covoiturage de plateforme, c'est pareil. Naturellement, c'est le premier qui prend tout. En école de commerce, voilà, il y a cette formule winner takes all. C'est-à-dire que le premier prend tout, voilà, tout le trafic. Et donc, c'est des économies qui vont vers le monopole. Voilà. Donc, en 2005-2006, quand il y a encore énormément de plateformes, il n'y a pas une plateforme qui se dégage en particulier. Et BlaBlaCar va prendre un petit avantage qui va avec les effets de réseau. Donc, c'est ce qui va permettre à ces plateformes de petit à petit s'accaparer le trafic et aujourd'hui de devenir leader incontesté effectivement en Europe. Voilà.
Ouais. BlaBlaCar est devenu Komuto et on a du mal à connaître les actionnaires de cette société qui prochainement devrait rentrer en bourse.
Alors, donc le PDG, aujourd'hui le fondateur, hein, de BlaBlaCar, c'est Frédéric Mazzella. Et il dépose en 2006 les statuts d'une entreprise qui s'appelle Komuto. Donc c'est l'entreprise qui possède BlaBlaCar, quoi, voilà. Je me suis perdu.
Après, donc, lorsque Comuto est créé, Mazzella va chercher des fonds, va taper chez les financiers. Et
Oui,
on a du mal à connaître les noms de tous les financiers qui aujourd'hui sont actionnaires de Comuto.
alors effectivement, donc deux choses. Dans cette course pour être le premier, il va falloir lever énormément d'argent, surtout pour de la communication, pour acheter les concurrents aussi, exactement. Donc BlaBlaCar a levé énormément d'argent dans les années 2010 pour voilà, imposer vraiment son monopole. Et pour lever énormément d'argent. Effectivement, il est d'abord allé taper à la porte de ses amis proches. Et puis, il a élargi au fonds d'investissement. Donc, au départ, le premier fonds d'investissement à investir beaucoup, je crois que c'est 100 000 euros. Ça va être un fonds d'investissement français qui s'appelle Isaïe, dans lequel on va retrouver Pierre Kosciusko-Morizet. On va retrouver des grands noms déjà de la finance en France sur les startups. Et puis très vite, Blablacar, donc Komuto, va aller démarcher des fonds d'investissement américains, des fonds d'investissement anglais, puis des fonds d'investissement russes. À l'arrivée, il y a énormément aujourd'hui de fonds d'investissement dans Blablacar, dans Komuto. Ce qui se passe, c'est que l'entreprise n'est pas très claire, n'est pas très transparente sur à qui appartient Komuto. Elle serait en bourse, il y aurait une législation beaucoup plus stricte pour ça, mais aujourd'hui elle n'est toujours pas en bourse. On sait les principaux fonds d'investissement qui possèdent Blablacar, mais on n'a pas précisément la liste avec le pourcentage de capital qu'ils détiennent. Voilà, donc c'est assez trouble.
C'est Mazella qui s'est chargé d'aller chercher des fonds, où il avait une équipe avec lui.
Alors, Mazzella a eu le talent de bien s'entourer. Donc, Blablacar a décollé et a pris l'avantage par rapport à ses concurrents parce qu'il avait beaucoup d'argent pour racheter les concurrents, pour communiquer. Mais il y a aussi une personne qui s'appelle Francis. Non, excusez-moi. Si, Francis Napès, c'est ça? Qui était ingénieur informatique à Mythique, donc qui a fait une plateforme un peu plus attractive, on va dire, que les autres pour attirer du trafic. Et Mazzella a eu aussi l'intelligence de s'entourer de Nicolas Brusson, qui est un financier pur et dur. Et donc, c'est surtout avec Nicolas Brusson, on imagine, hein, j'étais pas là, mais j'imagine que c'est avec Nicolas Brusson qu'il est allé chercher ses investisseurs. Voilà, Francis Napès, Nicolas Brusson et Frédéric Mazzella. Donc, c'est le trio qui a porté Blablacar à ses débuts. Voilà, aujourd'hui, Francis Napès n'est plus là. Mais Frédéric Mazzella est toujours le président et Nicolas Brusson le directeur général.
Blablacar, à un moment, on passe d'un service gratuit à un service payant. Et dans votre livre, vous écrivez, Blablacar a pourri le covoiturage. Comment vous expliquez ça?
Bon, alors déjà, ils sont devenus payants parce qu'ils ont c'est le modèle économique de ces plateformes, hein. Les investisseurs, les fonds d'investissement, ils n'investissent pas par altruisme, hein. Ils investissent parce qu'à un moment donné, il y a un retour d'investissement. Et ce retour d'investissement, il est possible quand la plateforme a une position dominante, a une forme de monopole, et qu'elle peut commencer à imposer des commissions, hein, dans le cas de Blablacar. Donc la commission a effectivement été mise en place en 2011, a commencé en 2011 en France. Elle s'est petit à petit généralisée donc dans les pays où Blablacar avait la position dominante. Donc je crois qu'à l'échelle européenne, c'est 2018 où l'ensemble des services ont été sous commission. Donc ça, c'était votre première question. Oui,
Et
alors
c'est
pourquoi?
comment Blablacar a pourri le covoiturage?
Ouais, alors ça, c'est une vaste question, mais en tant qu'utilisateur, hein, je pense qu'on est nombreux à l'avoir ressenti. C'est qu'on est passé d'un service où le covoiturage était proche d'un autostop organisé, on va dire, où il y avait une forme d'imprévu, on va dire, de quelque chose de très convivial en tout cas, à quelque chose de beaucoup plus froid, de beaucoup plus prestataire de service, quoi. Étant donné que les passagers vont payer une commission, ou étant donné que comment dire, BlaBlaCar a mis en place une interface qui fait qu'aujourd'hui, autant les passagers que les conducteurs se retrouvent dans des positions de consommateurs et de prestataires de services. Voilà. C'est ça que j'ai essayé de creuser à partir de mon ressenti de covoitureur. Comment on en était arrivé à comment BlaBlaCar était arrivé en quelque sorte pour de la recherche de profit à transformer la relation entre covoitureurs.
Ce qui veut dire que les conducteurs sont devenus des travailleurs déguisés de Blablacar, un peu comme chez Uber.
Alors, je vais pas jusque-là, hein. Je veux pas jusque-là, mais je pose la question, effectivement. Je pose la question du rapport qu'il y a entre les usagers de la plateforme et BlaBlaCar.
Les conducteurs ne sont pas mono-employeurs, quoique, dans cette activité peut-être. Mais en tous les cas, il y a un lien de dépendance. Parce que j'imagine que c'est BlaBlaCar qui autorise ou pas des conducteurs à embarquer des passagers.
Ben, étant donné qu'ils ont le monopole, on est obligé de passer par BlaBlaCar aujourd'hui si on veut faire du covoit, si on veut en tant que conducteur, voire en tant que passager, faire du covoit longue distance. On n'est pas obligé hein, de faire du covoiturage longue distance. Donc il n'y a pas de. C'est toujours l'ambiguïté de cette question. Hein, c'est que des entreprises comme ça diront, nous, on s'en tient à mettre en relation. Sauf qu'étant donné que BlaBlaCar a le monopole, bon, on se retrouve dans une situation où on est obligé de passer par BlaBlaCar si on veut faire du covoit longue distance, quoi. Voilà. Ce que j'interroge, c'est ça. Quel est le rapport des passagers à BlaBlaCar? Bon, ils payent une commission, donc pour moi, c'est eux les clients. Voilà. Les conducteurs, c'est, je trouve, un peu plus ambigu, parce que les conducteurs ont accès gratuitement au service. Et BlaBlaCar va réussir à faire payer une commission aux passagers, parce que les passagers répondent à une annonce qui a été posée par les conducteurs. Donc les conducteurs, ils ne sont pas les clients parce que c'est gratuit pour eux, mais en même temps, BlaBlaCar gagne de l'argent parce qu'il y a des conducteurs qui rendent des services à des passagers. Donc dans quelle mesure, quel rôle ont voilà, les conducteurs dans l'économie BlaBlaCar? Effectivement, moi je trouve que la question est floue. Ma grand-mère a l'habitude de dire que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà, pour les conducteurs, c'est gratuit. Est-ce qu'ils ne sont pas les produits que propose BlaBlaCar à ses clients? S'ils sont les produits, dans quelle mesure BlaBlaCar fait de l'argent sur le travail? On peut s'interroger, est-ce que c'est du travail? Le travail des conducteurs.
Et BlaBlaCar, c'est le spécialiste du covoiturage longue distance, mais il y a aussi le covoiturage de proximité. Ce qui est surprenant, c'est que les entreprises n'ont pas mis en place des moyens suffisants, nécessaires, pour que leurs salariés puissent se déplacer ensemble. Et ensuite, on parlera des initiatives institutionnelles. Et comment vous expliquez que les entreprises donc, qui ont la responsabilité et qui pouvaient tirer un avantage social de cette proposition n'ont pas incité de manière importante ni à l'utilisation du vélo, ni à l'utilisation du covoiturage?
Alors, il y a quand même eu hein, des. Il y a quand même, il existe aujourd'hui des plateformes propres aux entreprises. Il y a quand même eu, dès les années 90, des plans de déplacement d'entreprise qui ont d'ailleurs été financés sur fonds publics en général ou du moins aidés par notamment par l'ADEME. Et donc, au début des années 2000, fin 90, début mi-2000, par là, il y a quand même eu pas mal de plans de déplacement avec la création de plateformes au sein d'entreprises. C'était d'ailleurs le business, un des business de BlaBlaCar avant qu'ils puissent rentabiliser la plateforme de consommateur à consommateur. Donc les plans de déplacement entreprise avec des plateformes au sein des entreprises existent. Voilà. Après, le covoiturage du quotidien, voilà, c'est un domaine que je me suis moins intéressé à ça qu'au covoiturage longue distance sur lequel BlaBlaCar a le monopole. Sauf qu'aujourd'hui, BlaBlaCar a racheté Klaxit, donc en 2023. Et aujourd'hui, BlaBlaCar entre donc via BlaBlaCar Daily, qui est une autre plateforme, possède aujourd'hui la moitié du covoiturage du quotidien, du trafic des plateformes de covoiturage au quotidien. Voilà. Donc il y a plusieurs questions dans ce que vous dites. Voilà, il y a cette question des plateformes de covoiturage au quotidien, où il y a un peu plus de concurrence que sur la longue distance. Comment ça se fait que ce soit des entreprises, des plateformes qui soient indépendantes des entreprises? Bon, sur ce point-là, je serai plus mesuré que vous. Je pense que ça peut avoir une utilité parce qu'il y a des zones d'activité, par exemple, où il y a plusieurs entreprises situées au même endroit. Donc, bon, ça peut être bien. Les plateformes peuvent être utiles. Extra-entreprises peuvent être pertinentes, je pense aussi. Voilà,
Oui, mais ça
alors par
pourrait
contre.
être organisé au travers des zones d'activité, par exemple. Dans ces zones d'activité, pardon, il y a toujours une entité régulatrice de l'activité, de la communication des entreprises qui sont installées sur la zone. Donc, on aurait pu imaginer que ces zones d'activité soient promotrices de ces propositions. Or, moi, j'en connais pas. Enfin, je ne connais pas d'initiative. Il y en a peut-être que je n'ai pas vu passer.
Il y a quand même en ce moment, alors peut-être pas via les zones d'activité, mais est-ce qu'elles ont les compétences pour ça, etc. Voilà, c'est le sujet que je ne maîtrise pas. Il y a quand même pas mal d'efforts financiers de la part des collectivités locales aujourd'hui. Ce que j'interroge, c'est davantage le. Ces efforts-là, en général, ils consistent à financer des plateformes privées type Klaxit, type BlaBlaCar Daily. Voilà, pour faire les intermédiaires. Et ce que j'interroge, c'est ça, c'est peut-être le modèle qui consiste à déléguer à des plateformes privées le trafic, l'augmentation du trafic au niveau communautaire, quoi, au niveau territorial, pardon, local. Voilà.
Peut-être qu'on interrogera l'utilisation de la voiture tout à l'heure, mais notamment à Métropole Aix-Marseille a mis en place des propositions de covoiturage avec la rémunération des conducteurs. Mais à ma connaissance, la mayonnaise n'a pas pris. C'est très, très, très peu utilisé. Et comment vous expliquer que, à la fois, l'institution ne mette pas de moyens très importants pour inciter à l'utilisation de ce dispositif, alors que parallèlement, la métropole a créé des voies de circulation spécifiques, à la fois en ville, mais aussi sur les autoroutes, pour permettre un déplacement rapide des moyens de transport en commun. Et on n'a pas enfin, moi je ne vois pas cette volonté forte, mais que ce soit à Marseille ou dans d'autres régions, de développer le covoiturage du quotidien.
Mais comment vous voudriez, moi je pense qu'il y ait cette volonté que financièrement, vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a quand même il y a carrément des subventions pour les personnes qui proposent des annonces de covoiturage ou qui réalisent des transports en covoiturage. Donc Je pense qu'il y a aujourd'hui les moyens qui sont mis au niveau local pour développer le covoiturage. Ce que j'interroge, moi, c'est peut-être plus au contraire cette volonté de développer le covoiturage à tout prix, en fait. Quel est le bilan, en fait? Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'argent. J'ai quand même un peu creusé la question. Aujourd'hui, il n'y a pas au niveau national d'état des lieux. On ne sait pas combien aujourd'hui est investi, combien de fonds publics sont investis dans le covoiturage courte distance. Les actions sont menées par les métropoles ou par les communautés de communes, etc. Elles sont financées à la fois donc par les collectivités territoriales et par l'État. Aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur l'argent qui est globalement au niveau national, qui est globalement injecté pour le développement du covoiturage local. Voilà. Et pour quel résultat? Voilà. Donc je pense que les moyens sont mis. Je ne vois pas comment la collectivité pourrait financer davantage le covoiturage. Moi, la question que je pose, c'est plutôt quelle est la. Oui. Est-ce que la méthode est la bonne? Est-ce que de passer par des plateformes privées est la bonne méthode pour développer le covoiturage? Est-ce que de développer le covoiturage sans intermédiaire entre particuliers, de développer le stop, voilà ces questions-là qui seraient, qui reviendraient beaucoup moins cher à la collectivité, une solution low-tech, voilà. Est-ce que ça serait pas aussi efficace et beaucoup moins cher pour les collectivités territoriales et la collectivité globale, quoi?
Aujourd'hui, il y a plusieurs métropoles qui s'interrogent sur le déplacement. Et notamment, il y a une initiative qui est portée notamment à Paris, mais aussi à Singapour, à Montréal, je crois, ou à Chicago, dans plusieurs métropoles dans le monde, sur une proposition de la ville du quart d'heure. C'est-à-dire qu'à un quart d'heure à pied, on peut aller travailler, apprendre, se soigner, se cultiver. Donc on fait tout dans cet espace-là, qui en fait était le principe, le schéma qui existait lorsque j'étais enfant. Lorsque j'étais gamin, bah, les voitures étaient peu développées, enfin, il y avait peu de voitures parce que ça coûtait cher et il n'y en avait pas beaucoup. Et les gens allaient travailler à pied. Il y avait plein de commerces de proximité. On allait en ville à la rentrée des classes ou lorsqu'on avait besoin d'acheter des vêtements, d'acheter ce qu'on ne trouvait pas dans les magasins de proximité. Mais il y avait des boucheries, il y avait enfin, dans la rue où j'habitais, il y avait trois ou quatre boucheries, deux charcuteries, quatre bistrots, cinq ou six boulangeries. Il y avait plein de commerces. Donc les gens n'avaient pas besoin d'aller en ville, n'avaient pas besoin de se déplacer. Puis ensuite, on a inventé les zones industrielles, puis les zones franches, et donc on a poussé les gens à utiliser leur voiture. Mais donc on peut s'interroger sur l'intérêt de l'utilisation de la voiture avant d'en arriver à des solutions extrêmes. Londres a déjà mis en place des péages pour entrer dans la ville, et New York va le faire au mois de juin.
Alors, j'ai envie de vous poser une question. À votre avis, c'est quoi qui a déclenché le changement entre la ville du quart d'heure et la situation dans laquelle on est aujourd'hui?
La consommation, la publicité.
Ok. Et alors, moi, je me pose aussi la question du prix du pétrole et du prix de la voiture et du prix du foncier. Mais effectivement, je pense qu'avant, on habitait un lieu où on consommait, où on produisait, où voilà, il y avait la vie du quart d'heure, effectivement. Aujourd'hui, souvent, on vit loin de là où on travaille. Donc, il y a effectivement, l'aménagement du territoire est devenu de plus en plus spécialisé. Il y a des zones de travail, il y a des zones de vie, il y a des shopping zones maintenant dans les grandes villes. Effectivement, on bouge beaucoup plus et je pense que c'est dû au fait que le pétrole ou que le foncier, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais effectivement, il s'est passé quelque chose dans l'aménagement du territoire où la voiture est devenue indispensable pour beaucoup.
Ça a été une volonté politique de développer le tout voiture au détriment du ferroviaire, au détriment des transports en commun. À Marseille, par exemple, Marseille, c'est une ville que je connais bien, j'y suis né, il y avait des tramways qui allaient dans tous les quartiers de Marseille et qui fonctionnaient de manière très, très efficace. Et puis ensuite, c'était Gaston Defferre qui était maire de Marseille à cette époque-là, qui a lui a choisi de faire rentrer, enfin, le tout voiture, et qui donc a déplacé les activités.
Ouais, OK.
Et vous avez peut-être entendu aussi, il y a un projet national de transformation des zones commerciales. Alors, il se trouve que près de Marseille aussi, il y a la plus grosse zone commerciale d'Europe, qui est à cheval sur les plaines du Mirabeau et Cabriès. Et donc, le projet, c'est d'aménager du logement dans ces zones commerciales, qui en fait sont des zones de visite où il y a un nombre de visiteurs, de chalands absolument colossaux qui se déplacent essentiellement le week-end pour aller faire du lèche-vitrine. Et sinon, que bon, le panier moyen rapporté au nombre de visiteurs est quand même pas très important, mais comme il y a beaucoup de visiteurs, il y a quand même un chiffre d'affaires important. Mais quand même, ces zones industrielles sont utilisées, enfin, toutes ces surfaces sont utilisés de manière profitable 2 jours par semaine.
Mais co comment on fait pour détricoter, pour retricoter le territoire? C'est
Mais on y met du logement.
pas évident. Oui, on y met du logement. Ouais, par exemple,
On transforme. Enfin, c'était des zones agricoles qui ont été transformées en zones commerciales. Mais de manière surprenante, quand on regarde les flux de déplacement entre Aix et Marseille, entre Aix et Vitrolles, on voit bien que les gens qui travaillent à Marseille souvent viennent de Vitrolles ou d'Aix-en-Provence. Il y a quelques années, je discutais avec le maire de Fort-Calquier et son angoisse était que cette ville devienne la ville dortoir d'Aix-en-Provence et de Marseille. Parce qu'en fait, c'est moins long d'aller d'Aix à Fort-Calquier que d'aller d'Aix à Marseille. Non pas en distance, mais en temps de trajet.
Oui, tout à fait,
Et donc Castaner, à cette époque, qui était maire de Fort-Calquier, disait, mais il faut aussi que je trouve de l'activité à Fort-Calquier, d'abord pour y garder ma population, et puis aussi pour que ça devienne pour que ça reste ville, en fait.
Oui, les questions d'attractivité des territoires sont pas Mais voilà, c'est des questions. L'aménagement du territoire aujourd'hui est complètement laissé au marché. Donc les territoires se retrouvent en concurrence pour attirer des gens. Effectivement, on en arrive à des aberrations et à des choses qui ne sont pas du tout durables. Effectivement, il y a des zones commerciales qui sont susceptibles. Enfin, alors peut-être pas encore en France, mais aux États-Unis, il y a des zones commerciales qui sont accessibles uniquement en voiture, qui petit à petit tombent en ruine. Voilà, ça fait des territoires qui sont laissés à l'abandon. Enfin, voilà, ça pose plein de questions. Et effectivement, l'aménagement du territoire, c'est une question clé. Et Et aujourd'hui, c'est la voiture, c'est la concurrence entre les collectivités. Enfin, voilà, c'est une forme de concurrence entre territoires qui fait l'aménagement du territoire, quoi. C'est plus du tout penser en termes de bien vivre ou en termes d'écologie. C'est penser en termes économiques. Et ça fait le bonheur des uns et ça fait la crise des autres. Voilà, c'est toujours pareil, quoi. Aujourd'hui, il y a une énorme augmentation des métropoles, de plus en plus attractives. Et à côté, on a toujours pareil, des campagnes qui ont tendance à se dépeupler. Et la construction de zones périurbaines où les gens vont se retrouver dépendants au pétrole. Enfin, ouais, c'est problématique. Après, voilà, moi je suis pas du tout spécialiste de ça, mais effectivement, la vie du quart d'heure, enfin voilà, il y a dans mon travail de journaliste, j'ai pu m'intéresser à ces questions quand même. Et effectivement, la vie du quart d'heure, voilà, elle est, c'est, ça, ça paraît être une utopie concrète. Après, c'est. Comment aujourd'hui on revient à une ville du quart d'heure tout en étant au 21e siècle, tout en ayant des TGV, tout en ayant la possibilité de travailler à distance. Enfin voilà, il y a eu quand même des changements majeurs. Voilà, c'est une vraie question et c'est un vrai enjeu et c'est un enjeu qui est super intéressant pour l'avenir. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire au niveau local, mais ce que vous dites là sur Forcalquier, voilà, ça, effectivement, au quotidien, comment dire, concrètement, effectivement, pour les élus, c'est des questions qui forcément sont pas, ne se résolvent pas comme ça, quoi. J'imagine qu'il y a énormément de choses à faire pour en arriver là.
Et est-ce que vous pensez que BlaBlaCar reste un système écologique?
Je me coule une cigarette, excusez-moi. Alors, pourquoi vous pensez que BlaBlaCar est écologique? On va la faire comme ça, tiens. Allez, je vais poser.
Parce qu'on utilise moins de carburant, enfin, on met plus de personnes, on embouteille moins.
Alors, pourquoi on utilise moins de carburant et qu'on met plus de personnes quand on fait du covoiturage? Revenons à des choses très prosaïques.
Parce que c'est une seule voiture qui transporte quatre personnes au lieu d'une voiture, une voiture par personne.
Fait. Sauf que en pratique, c'est pas du tout ça. En pratique, je sais pas si vous-même vous faites du covoiturage, mais moi, pourquoi je fais du covoiturage quand je prends ma voiture? Parfois, ça m'est arrivé de faire du covoiturage parce que je regarde le prix d'un billet de train, par exemple, et je vais m'apercevoir que quand je fais du covoiturage, si je trouve un passager, ben, ça me coûte moins cher de prendre la voiture que de prendre le
Utiliser
billet
le
de
train.
train. Et les passagers, c'est pareil. Les passagers, avant de prendre un covoiturage, ils regardent les offres de train ou de bus et ils constatent que souvent, le covoiturage est moins cher. Donc, effectivement, on a cette idée reçue d'un covoiturage écolo et il y a des cas, il y a un cas théorique qui ferait que le covoiturage est effectivement écolo. C'est le cas où. Moi, en tant que conducteur, je laisse ma voiture au garage. Pardon, je la refais. Moi, en tant que conducteur, je suis obligé de prendre ma voiture parce que je vais dans une zone rurale et j'aurai besoin pour des petits déplacements, etc. Voilà, donc, je suis obligé de prendre ma voiture. Et de l'autre côté, le passager, il se dit, eh bien tiens, non, moi, je ne vais pas prendre ma voiture cette fois-ci. Je vais faire du covoiturage. Donc là, effectivement, on a un cas de covoiturage où deux personnes font le même trajet dans une même voiture au lieu qu'il y ait deux voitures qui font le trajet. Voilà. Sauf que dans les faits, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Sur BlaBlaCar, en tout cas, il y a une étude qui montre que 70% ou allez, deux tiers des passagers, ils laissent pas leur voiture au garage, en fait. Ils prennent pas le train. Au lieu de faire, s'ils n'avaient pas fait de covoiturage, ils auraient pris le train. Donc, en gros, ça change rien. Et pire, il y a un tiers des conducteurs qui déclarent que, ils n'auraient pas fait le trajet en voiture s'ils n'avaient pas trouvé de passagers. Donc BlaBlaCar n'est pas écolo. Dans les faits, hein, c'est une étude de l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement.
Développement de la transition écologique, de la transition écologique, oui, c'est ça.
C'est ça, donc un service qui est rattaché au ministère de l'écologie. C'est une étude de l'ADEME de 2015, hein, donc ça, c'est des choses qu'on sait depuis presque 10 ans. L'ADEME s'interroge, mais en fait, est-ce que le covoiturage, ça ne met pas des voitures sur les routes s'il y a un tiers des conducteurs qui n'auraient pas fait le trajet? Et cette question a été creusée par le Commissariat général au développement durable, donc qui est une autre administration rattachée au ministère de l'écologie. Et effectivement, si le covoiturage longue distance, donc BlaBlaCar, met des voitures sur les routes. Voilà, parce que tout simplement, il réduit le coût d'utilisation de la bagnole. Et
D'accord.
la bagnole devient encore plus concurrentielle que le train, que les autres solutions de déplacement. Voilà.
Et comment ça se passe pendant les trajets? Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui se retrouvent dans un espace restreint, qui se connaissent pas. Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce que les gens font la gueule? Est-ce qu'ils dorment?
Alors ça, je pense que ça a évolué, hein. Donc c'est du ressenti, je ne peux pas en tirer des généralités, mais je pense qu'on est quand même nombreux parmi les covoitureurs un peu historiques à avoir vu un changement où au début il y avait quelque chose de plutôt simple et convivial. Le fait d'être effectivement dans la même voiture, alors tous ceux qui font du covoiturage... Le savent, hein, c'est assez particulier parce qu'on se retrouve très proche, hein, physiquement, on va dire, dans un espace privé. Donc, il peut y avoir des discussions très, très intimes. Moi, au début, le covoiturage, je trouvais ça ouais, super, quoi, parce que c'était vraiment un moment où on rencontrait des personnes vraiment de tous univers. Et on passait un moment assez intime avec eux. Voilà. Et globalement, ça se passait très bien. Et puis, petit à petit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je me suis retrouvé de plus en plus dans une position où il n'y avait plus uniquement que l'aspect financier qui rentrait en jeu, où je sentais que notamment en tant que conducteur, où je sentais que le passager n'était là uniquement pour se faire conduire.
D'accord.
Voilà, donc j'ai une voiture utilitaire, j'ai qu'un statut.
Il vous manquait la casquette de chauffeur de taxi, quoi.
Exactement, voilà, sauf que j'ai pas de statut, je suis pas auto-entrepreneur ou quoi que ce soit, je suis un simple particulier. Et voilà, et c'est ce que je raconte dans le livre, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais voilà, je suis tombé sur un passager qui m'a pas décroché un mot, qui était à quelques centimètres de moi. Voilà, il y avait quelque chose d'un peu malsain en fait dans cette relation-là. Moi, c'est pas ce que je recherchais. Alors, bien sûr, quand on poste une annonce en tant que conducteur, il y a l'aspect financier qui rentre en jeu, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Voilà, on n'est pas des prestataires de services. Alors, où on est des prestataires de services, mais ça doit pas être la première des relations. La première des relations, c'est déjà une relation de rencontre, d'échange. Voilà. Et ça, effectivement, petit à petit, ce rapport-là qui dépasse le rapport strictement économique, j'ai l'impression qu'il se perd un peu, quoi. Les passagers, ils cherchent systématiquement à s'asseoir à l'arrière pour avoir le minimum d'interaction. Voilà, il y a un truc très froid, quoi. Je pense que beaucoup de conducteurs et beaucoup de passagers aussi l'ont constaté. Voilà, c'est devenu un service équivalent à un Uber, en fait. Aujourd'hui, en tant que passager, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre prendre un Blablacar et prendre un Uber. D'ailleurs, maintenant, on dit prendre un Blablacar ou mon Blablacar. Voilà, il y a quelque chose de très appauvri, je trouve, dans la relation de covoiturage.
Ouais, en lisant votre livre, j'ai découvert que les conducteurs étaient notés par les passagers. Alors,
Ouais,
c'est absolument abominable, quoi.
La notation, alors ça c'est un grand débat, c'est pareil, je suis pas expert sur le sujet, mais de noter des particuliers, alors c'est des débats que j'ai eus avec des amis, hein, ça s'est beaucoup répandu, il y a beaucoup de gens qui font leur choix de resto ou d'artisan en fonction de notation Google ou autre. Voilà, moi je trouve ça un peu malsain, alors des professionnels. Pourquoi pas? Enfin, moi, je l'entends. Je me dis pourquoi pas. Bon, d'accord. Mais des particuliers, c'est un peu plus problématique quand même. Moi, voilà. Encore une fois, je suis pas professionnel. Je suis pas un frigo sur Amazon. Oui, je suis pas un professionnel de la prestation de service. Je suis juste Fabien, qui propose une annonce de covoiturage. Et d'être noté, d'avoir des commentaires du style Fabien est très sympa, je recommande ce genre de truc, je ne sais pas comment dire, moi ça me questionne. La personne qui me laisse un commentaire, elle ne s'adresse pas à moi, elle s'adresse à des gens qu'elle ne connaît pas. Je trouve ça bizarre, malsain, un peu nul. Voilà, mais effectivement, le commentaire sur des personnes, c'est quelque chose qui se développe, mais considérablement, et pas que sur BlaBlaCar. Et ça pose question de la société qu'on est en train de construire, quoi.
Sur les réseaux sociaux, de manière générale.
Oui, bien sûr.
Et ces commentaires vont jusqu'à déclencher des drames. On en a eu des exemples tout à fait récents.
Oui, alors après, bon, est-ce que c'est dû uniquement aux commentaires? Il y a les
Non,
questions
c'est bien
seulement,
sûr, oui. C'est pas que le commentaire, mais le commentaire est peut-être l'élément déclencheur.
je sais pas, mais moi, ce que je dis, c'est qu'il y a quand même un truc un peu froid, je trouve, de plus en plus entre les personnes, ou la moindre relation spontanée entre des personnes va être de plus en plus compliqué. Et par ailleurs, il va y avoir de plus en plus d'interfaces, de plateformes qui vont soi-disant être des tiers de confiance. Ça veut dire quoi? C'est quoi les tiers de confiance? En fait, c'est des autorités de contrôle qui vont veiller à ce que quand vous entrez en relation avec la personne, vous soyez assuré que cette personne ne soit pas dangereuse ou. Ça fait peser une forme de défiance en fait envers l'autre. Il y a une forme de défiance par défaut, j'ai envie de dire, où on devrait bien noter la personne avec qui on a eu une interaction parce que par défaut, la personne est malveillante. Voilà, c'est ce modèle-là que j'interroge un peu. Ouais, je trouve que les échanges, donc à l'image de ce qui est devenu le covoiturage, les échanges perdent en spontanéité, il y a beaucoup moins d'imprévus, il y a une forme de défiance envers le pendant de ça, c'est qu'il y a une forme de défiance, j'ai l'impression, envers l'autre. Voilà. Et l'hypothèse que je dis, c'est que voilà, les plateformes comme BlaBlaCar, elles vont justifier leur commission par le fait qu'elles sont assureurs de la relation. En gros, si vous payez BlaBlaCar va dire, vous allez me payer et moi, je vais vous assurer que la relation va bien se passer. Voilà. Sauf que la relation, elle n'a pas besoin de BlaBlaCar pour bien se passer. Et
Bien sûr.
si j'étais assureur, enfin, je ne sais pas, vous avez été peut-être assureur dans une autre vie, Jean-Pierre,
Non,
non?
non.
Je me pose la question, un assureur. Vous allez lui dire, mais là, il n'y a pas de risque, donc vous ne servez à rien. Eh bien, l'assureur, il va vous trouver des risques pour vous dire, ah ben si, regardez, je sers à quelque chose, payez-moi, je vais vous assurer. Bon, BlaBlaCar, est-ce qu'il n'est pas un peu dans cette même situation où il a intérêt à dire, ben, la relation est potentiellement dangereuse, donc notre commission, elle est légitime.
Justifié.
Nous payer parce que sinon la relation elle est peut-être dangereuse quoi. Si la relation elle n'était pas dangereuse, on aurait le fondement de l'activité de BlaBlaCar qui est tiers de confiance, en fait, il n'aurait aucun fondement. Je sais pas si je suis très clair, c'est des questions.
Ouais, j'entends bien. Est-ce que vous avez le souvenir d'une bah, d'un moment de covoiturage qui, enfin, d'un joli moment.
Bien sûr, bien sûr. J'en ai plein et je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas toujours arriver, même s'il y a une commission payante. Hein. Ce que je dis, c'est qu'ils arrivent un peu moins. J'ai l'impression qu'ils arrivent un peu moins parce qu'il y a une interface globale qui est devenue angoissante et défiante. Et ce que je dis aussi, c'est qu'on ne peut plus faire de ristournes. Par exemple, quand on est conducteur, il y avait souvent des moments où on disait aux passagers, bon, mais c'est bon. Allez, je fais un détour ou tu me files la moitié de ce qui était prévu, c'est pas grave, on a passé un moment sympa, voilà. C'est ça que je dis, c'est que l'interface BlaBlaCar interdit maintenant une forme de confiance, en fait. Voilà.
D'accord.
Alors, les bons mots
Le
de convoite.
prix fixé est maintenu, quelles que soient les conditions.
Tout à fait, le prix fixé, il est prépayé par le passager.
D'accord.
Et voilà, le passager paye BlaBlaCar qui reverse au conducteur. Voilà, donc le conducteur n'a pas la main pour dire en fait, c'est bon, je te fais une ristourne ou ce genre de choses, puisque il a été prépayé par BlaBlaCar, quoi.
D'accord.
Et BlaBlaCar fixe le montant de sa commission via un pourcentage sur. En fait, le covoiturage à la base, c'est du partage de frais d'essence. Ça, on l'oublie. On l'oublie, mais c'est du partage de frais. Voilà. Donc le conducteur, il ne va pas fixer son prix normalement. Normalement, il évalue les frais d'essence qu'il a et il partage et il dit à un passager potentiel, eh bien, si tu veux, on partage et l'équivalent de la moitié du trajet, c'est tel prix. Voilà. Aujourd'hui, avec BlaBlaCar, on est invité à fixer un prix, etc., etc. Et BlaBlaCar va prendre jusqu'à à peu près 30% du prix fixé par le passager, voilà. Par le conducteur, pardon.
C'est énorme.
Oui, c'est énorme. Mais bon, apparemment, ils font un peu ce qu'ils veulent, hein, vu qu'ils ont le monopole. Donc,
Ouais, moi, je connais peu d'entreprises qui dégagent 30% de marge.
moi non plus. Alors, est-ce que c'est de la marge nette? Voilà, ils ont
Non,
pris.
non, là, c'est de la marge brute, mais quand même.
On est bien d'accord. Ouais. C'est. Moi, je trouve ça énorme également. Ouais.
Alors, parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre discussion, qu'est-ce qu'il y a après BlaBlaCar? Est-ce qu'il y a un lendemain? Ou bien BlaBlaCar va poursuivre son existence tranquillement ou va s'éteindre de sa belle mort?
Alors moi, je suis très optimiste sur tout ça. Alors c'est pareil, c'est quelque chose que je développe dans le livre et j'invite les personnes qui regarderont cette vidéo à acheter le livre, bien entendu, hein, parce que les enquêtes, voilà, c'est du travail. Donc moi, je suis très optimiste. Pour moi, Internet, ça a quoi? Ça a 20 ans. Les plateformes de mise en relation, ça a 10 ans. BlaBlaCar, ils ont la position dominante depuis 15 ans, donc c'est très peu en fait. Et cette économie de plateforme, pour moi, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté économique et aujourd'hui, l'État n'ose pas intervenir. Alors que ces plateformes, le modèle de ces plateformes, on l'a dit rapidement, c'est le monopole, c'est la position dominante. Donc aujourd'hui, il existe des plateformes alternatives. Je vais citer Mobicop, par exemple, qui appartient à ses usagers, où l'interface est beaucoup moins pénible que celle de BlaBlaCar. Enfin bref, qui a plein d'avantages, sauf que Mobicop, pour moi, de mon point de vue, restera un marché de niche militante, étant donné que BlaBlaCar a aujourd'hui la position dominante et, via les effets réseau, gardera la position dominante si rien n'est fait. Voilà. Ceci étant dit, la seule solution qui nous reste, c'est de réquisitionner BlaBlaCar, c'est d'en faire un bien commun, tout simplement. Voilà, comme BlaBlaCar, c'est quoi aujourd'hui? C'est une plateforme. C'est une plateforme qui centralise le trafic. Pour moi, c'est l'équivalent de SN, du service public de gestion des réseaux ferrés. C'est-à-dire que c'est absurde qu'il y ait plusieurs réseaux ferrés. Donc, il y a un service public qui gère ça. Ça serait tout aussi absurde s'il y avait plusieurs plateformes comme BlaBlaCar. Voilà, BlaBlaCar, naturellement, c'est un monopole naturel. Donc, pour moi, naturellement, il faut réquisitionner BlaBlaCar, il faut faire un bien commun. À partir de là, comment on fait? Tout simplement, on file un chèque aux investisseurs de BlaBlaCar et on nationalise BlaBlaCar. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de BlaBlaCar? Voilà. Eh bien, on fait une convention citoyenne, par exemple, où on se met autour de la table entre usagers, entre administration peut-être, entre bon voilà, avec la SNCF autour de la table, avec des personnes qui réfléchissent à l'aménagement du territoire, etc. Et on se dit, qu'est-ce qu'on veut faire de BlaBlaCar? Voilà. Est-ce qu'on privilégie le train? Est-ce qu'on privilégie le covoiturage? Est-ce que c'est les passagers qui payent 30%? Est-ce que c'est les passagers qui payent 10%? Est-ce que c'est les passagers qui payent ou est-ce que c'est l'impôt? Est-ce qu'on anonymise, est-ce qu'on ne rendrait pas les annonces anonymes aussi? Ça, c'est une question que je pose dans mon livre parce qu'il y a des discriminations de fait sur la plateforme BlaBlaCar et pour moi, c'est une vraie question. Quel est l'intérêt de connaître l'âge et le sexe de la personne avec qui on va covoiturer, par exemple? Bon. Bon, bref, il y a plein de questions, il y a plein de possibles, mais aujourd'hui, BlaBlaCar est dicté par une logique financière, c'est normal, c'est une entreprise capitaliste. Vous ne l'avez pas remarqué, mais fait remarquer, mais BlaBlaCar, c'est une entreprise qui est présente dans 22 pays dans le monde. C'est la plupart de ses utilisateurs sont russes. Enfin, c'est vraiment une multinationale, c'est vraiment un gros machin. Donc la première chose à faire, c'est de sortir de cette logique financière et de pas faire du covoiturage de ne pas faire en sorte que le covoiturage soit dicté uniquement par des logiques économiques. Voilà, ça me paraît important, surtout quand on sait que le covoiturage longue distance met des voitures sur les routes et qu'aujourd'hui, il y a des enjeux en termes climatiques, il y a des enjeux en termes économiques. Et du coup, ces plateformes-là, elles doivent être pilotées par autre chose que par l'argent. Ouais. Voilà, je ne sais pas, si.
On arrive à la fin de l'émission. Donc, je rappelle le titre de votre livre, je vais même le montrer. C'est La face cachée du covoiturage, BlaBlaCar et son monde, qui a été édité par le passager clandestin et l'âge de fer, et qui coûte seulement 16 euros. Merci beaucoup, Fabien, de cette discussion et de cet échange.
Merci à vous de m'avoir invité. Thank you.